est-ce qu'on peut agir sans pouvoir bouger ses verres, sans pouvoir bouger son corps et la performance que je fais, une question aussi de la performance.
Rencontre avec Camille Guénatry, performeur sous le nom La Terrasse.
Je m'appelle Camille Guénatry, j'ai 38 ans, je suis artiste performeur et je vis et travaille à Toulouse.
Nous sommes ici pour parler de ton parcours professionnel, notamment en tant qu'artiste performeur. Mais d'abord, j'ai pu lire que tu avais étudié la langue et la culture polonaise. Est-ce que tu peux nous dire bonjour en polonais et pourquoi cet intérêt pour la Pologne ?
Mon intérêt pour la Pologne, alors, on va dire qu'une fois, je suis allé vraiment complètement par hasard en touriste. J'avais une petite idée en tête, c'est d'aller voir le musée Condor à Cracovie. Parce que je m'intéressais à l'époque au théâtre, particulièrement le théâtre expérimental, un peu dans la lignée d'Antonin Artaud et tout. Donc en fait, j'avais un peu une fascination pour cet art-là. Du coup, pour allier l'utile à l'agréable, on va dire, je suis allé en vacances là-bas pendant un mois. Et j'ai allé au moins 3 ou 4 fois au musée Condor, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à lire aussi. C'est une vraie caverne d'Adibaba dans son travail. C'est un peu toutes ses archives, et celle de Grandowski, etc. C'est un peu un musée de théâtre qui m'a beaucoup fasciné. Donc, au retour, à cette époque-là, j'étais ingénieur en informatique. Je bossais, j'étais à 8 ans. J'avais déjà un attrait pour l'écriture, la poésie, un peu la performance. J'allais voir des festivals, j'allais rencontrer des gens et tout. Je voulais m'inscrire pendant les 2 jours de repos que j'avais dans la semaine. Je voulais m'inscrire à la fac dans une formation de langue. Et à un moment, j'hésitais avec l'Occitan. Et en fait, après le voyage en Pologne, au retour, je me suis dit, il n'y a pas photo. C'est plutôt le polonais que je vais apprendre.
Mais ça tombe bien que tu parles de l'Occitan parce que tu as évoqué un peu hein, le master en ingénierie des systèmes informatiques que tu as fait. Mais après ça, tu as fait partie de l'atelier, ou en même temps, c'est toi qui vas me dire, tu as fait partie d'un atelier d'art action et d'écriture contemporaine dirigé par Serge Pey au Centre d'initiative artistique de l'Université du Mirail, aujourd'hui Jean Jaurès, donc le SIAM à Toulouse. Voilà, moi j'aimerais que tu me parles un peu de cette expérience.
Alors, pendant que j'étais en études de langue, j'avais des options artistiques. Et du coup, j'ai pris écriture contemporaine et poésie performance. C'est là que j'ai rencontré Serge Pey dans son atelier. J'y suis resté en tant qu'élève bien 3 ans. J'ai fait tout le cursus. Et en fait, c'est une matière optionnelle qui était articulée en 6 semestres. Que les gens pouvaient y rester. Potentiellement 3 ans pour faire tout le cursus. Après, il y avait des venants et des partants, et ils prenaient des gens selon le niveau qu'ils avaient. Donc, j'ai fait le parcours complet parce que j'étais fasciné par à la fois ce monsieur, à la fois sa pratique, à la fois sa façon d'enseigner, qui nous sont devenus des grands amis, des bons amis. Il m'a beaucoup aidé à la CAF Poésie au début pour avoir un lieu où proposer mes travaux. Il m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Il m'a vraiment, par sa façon d'enseigner, qui est très particulière, il sait un peu réveiller des énergies des gens, des motivations des gens. Et ça se passe au-delà des mots, au-delà des consignes. Ça se passe vraiment dans l'échange. C'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment une super expérience avec Serge d'un point de vue transmission. C'est un point de vue transmission. Et pendant la dernière année de cette formation, il voyait que j'étais très motivé et il était intéressé par mon travail. Il m'a proposé de l'assister dans l'atelier. Pendant une année, on a bossé ensemble. Moi, j'étais un peu entre les deux, continuer d'apprendre. Mais j'adore apprendre aussi. C'est un peu initiatique comme parcours, mais ça s'est passé comme ça.
Son travail, Serge Pey, d'ailleurs, a un petit côté initiatique.
Totalement, je pense. Toute sa vision de la vie, elle est initiatique. Elle est chamanique, elle est... Il est habité par Et c'est le mot, il est vraiment habité pour ça.
Avant qu'on poursuive sur ton parcours d'artiste performeur, il faut quand même signifier que là on l'entend un petit peu, voilà, mais tu es appareillé, là tu as un respirateur. Peut-être, je ne sais pas comment tu décris ta position.
C'est-à-dire ?
Le fait que tu sois en fauteuil roulant, etc. Enfin, du coup, tu as toujours eu accès, toi, à tous les cursus, tout ce que tu voulais faire, tu as pu le faire, toi.
Avec plus ou moins d'adaptation, oui, et je me souviens, dans les dernières années d'études, où je ne pouvais plus vraiment écrire, j'avais beaucoup d'assistance pour les supports de cours. Ça m'aidait, enfin, ça m'aidait concrètement. Mais j'arrivais. Mon niveau est relativement baissé. J'arrivais plus à avancer aussi vite. Que les autres, ça fait pénaliser, on va dire. La compensation venait à pouvoir faire des choses. Mais le temps que ça prenait était plus lent, plus. Donc, à la fin des études, c'était un peu, on va dire, laborieux. Sauf dans les modules où je comprenais vraiment tout, sans rien avoir à étudier et tout. Mais on va dire que dans l'ensemble, j'ai pu faire tout mon cursus, et en ingénierie, et en art, avec plus ou moins de compensation. Et aussi, les enseignants adaptaient un peu pour moi, dans la mesure du possible. Pour moi, ça a été suffisamment formateur pour évoluer dans la pratique, dans mes envies d'apprendre.
Comment tu définis, toi, ton travail d'artiste-performeur? Et comment tu as découvert cet univers?
Alors, au tout départ, c'était l'écriture. Pour moi, c'était vraiment le médium. Donc, j'ai écrit pendant 2 à 3 ans et j'ai toujours eu le souci de lire. Pour moi, l'écriture, c'était aussi la lecture. Et ça me frustrait de faire que l'un ou que l'autre. Et pour moi, ça devait s'incarner à un moment ou à un autre. Donc j'avais besoin de passer en pratique des mots, de modéliser des mots, de faire vivre des mots, de partager des mots. Donc j'ai fait des salles ouvertes et c'était assez frustrant car mon insuffisance respiratoire a provoqué beaucoup d'essoufflement. Je devais m'adapter à ça. Et j'ai commencé à faire des formes de plus en plus courtes, à vraiment adapter ce que je pouvais. Ce que je pouvais sentir, et ça passait vraiment pour moi comme une contrainte, pas que physique, ça devenait une contrainte d'écriture.
Esthétique.
Esthétique, sonore, électrique. C'était quand même, ça restait compliqué. Ça restait pas facile. Je ne prenais pas un plaisir fou, pas assez de plaisir à mon goût. Donc j'ai commencé dans les salles ouvertes à ramener mon vidéoprojecteur. Il a explosé le texte en images aussi. Le fait d'avoir une projection ou un son à côté enregistré, ça me donnait de liberté dans la mise en scène. Ça me libérait le cerveau de l'axe de parole. Et du coup, ça me donnait un peu de place pour occuper la scène, pour occuper l'espace. Et donc j'ai commencé à penser à des actes. Et à me dire, ça ne peut pas être juste une image, un bout de texte. Je pouvais insérer des éléments scéniques, des objets. Et petit à petit, ça devenait plus de la lecture. Et les slameurs m'ont reproché ça.
Qui ça?
Les slameurs m'ont reproché ça. Des puristes.
Mais est-ce que toi, tu sentais déjà que tu frôlais la performance? Est-ce que tu te définissais déjà comme ça ou...
Je connaissais la performance. J'étais conscient que j'étais plutôt dans une pratique d'écriture. Mais du coup, je m'amusais à aller entre les deux. Et ça m'intéressait par rapport à mes contraintes physiques. Mais j'ai frôlé un peu la frontière du slam. Dans le slam, on dit « Ouais, c'est cool et tout. » Mais c'est pas vraiment le lieu pour ça. Pas tout ça.
Non,
pas
j'imagine. Tout, mais... On est en quelle année, là, quand tu es sur ce travail-là?
2008, avant la performance. La performance, c'est 2010, 2011. On va dire 2 ans avant. Il y avait beaucoup de slam à Toulouse.
C'est vrai. C'était une époque où on avait énormément de slam.
Et du coup, c'était cool pour ça. C'est pour ça que j'y allais, en fait. Parce que pour moi, c'était vraiment un espace de liberté que je trouvais intéressant. Et les gens étaient hyper sympas et ouverts. Sauf certains orthodoxes du slam. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, bah, je vais aller ailleurs. Je continue d'aller au slam, mais pour moi, en tant que spectateur, j'ai participé un peu. J'étais devenu un peu, on va dire, guest, et puis vraiment acteur de slam, dans la scène slam, quoi.
T'avais un petit côté déjà outsider, quoi.
Ouais, voilà, j'ai commencé à m'éloigner, à plutôt aller à la cave poésie, parce que c'était beaucoup plus adapté, j'ai trouvé, plus pluridisciplinaire. Et là, j'ai rencontré Serge Pueil, et je me suis intéressé à son travail, et je me suis inscrit à son atelier. J'ai un peu glissé vers la performance, par contrainte physique, et aussi par nécessité esthétique. Ça devenait pour moi plus intéressant. J'y prenais beaucoup plus de plaisir. Et petit à petit, j'ai lâché les mots. J'ai arrêté avec les mots parce que pour moi, ça faisait une surcouche. J'avais plus envie de dire des mots, j'avais envie d'incarner des mots, en fait, dans une action.
Et donc là, tu commences à mettre ton corps en scène, parce que ton corps est très central hein, dans tes performances. Comment tu démarres et peut-être aussi avec qui? Parce que j'ai vu que tu travaillais beaucoup avec des personnes qui t'accompagnent, soit des aidants, soit d'autres performeuses ou performeurs.
Oui, ma pratique, elle est de fait collaborative, parce que ma mobilité, elle est très restreinte. Donc, le point de départ, pour revenir un peu aux assistants, ou on va dire aux collaborateurs ou aux assistants de performance de façon plus globale et plus récurrente, en fait, parce que je travaille tout autant en solo, enfin en solo avec mes assistants, mes aidants, que en collaboration. Le point de départ, ça a été pour moi, le handicap, évidemment, quand j'ai commencé à faire de la performance, dans la performance, il y a plusieurs services. Il y a plusieurs façons de faire la performance. On peut être basé plutôt sur l'action, plutôt sur l'espace, plutôt sur l'objet, ou plutôt sur le corps. Moi, ça me paraissait évident qu'il fallait être dans le corps et dans l'espace, évidemment. Mais pour moi, ça paraissait comme une évidence. Je ne pouvais pas me baser que sur l'action. Je ne voulais pas être de cette famille de performeurs. Parce que je me disais que, quand même, on va dire, si mon art devait avoir un discours social aussi, ça serait sur le handicap aussi. Donc pour moi, ça devenait, on va dire, nécessaire, même primordial, que ça passe par le corps, en fait. D'autant plus que je trouvais ça encore plus intéressant d'un point de vue conceptuel, parce que mon corps ne peut pas agir. Ma mobilité étant restreinte, et on va dire au fur et à mesure des années, de plus en plus, ça me paraissait encore plus judicieux d'être dans le corps et pas dans l'action pour confronter un peu, pour pousser un peu la performance, un peu une limite. Est-ce qu'on peut agir sans pouvoir bouger ses mains, sans pouvoir bouger son corps Pour moi, ça questionnait. Je trouvais que ça posait un questionnement au sein même de la pratique. C'était pas que la performance qui questionnait le public. La performance que je fais questionne aussi la performance. Je trouvais ça plus intéressant. D'un point de vue conceptuel, ça allait beaucoup plus loin. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant comme une limite à aller frôler. Et donc, agir sans agir, pour moi, c'était un peu égal à intégrer les aidants qui s'occupent de moi quotidiennement. Qui font des choses pour moi quotidiennement, être avec eux pendant les performances et continuer à faire des choses devant le public. D'ordre, on va dire, symbolique et artistique, évidemment, dans mon quotidien, c'est des actes plus concrets, on va dire. Mais je voulais un peu chatouiller le concret et le symbolique. Je trouve ça intéressant de glisser de l'un à l'autre. Le deuxième moteur, on va dire, c'est qu'à l'époque, je devais faire toujours maintenant, mais maintenant, on m'embête un petit peu moins. Parce que je suis, comment dire, dans un état d'immobilité, de paralysie plus avancé. j'ai le maximum d'aide au quotidien. À l'époque, ma paralysie était en train d'évoluer, sur les mains surtout. Et donc tous les 2 ans, j'avais des réévaluations. Chaque 2 ans, je devais dire ce que je peux faire, ce que je peux pas faire au quotidien. Ça, au début, j'étais d'accord pour pouvoir avoir des aides, mais à la fin, ça devenait un peu kafkaïen. Sachant que moi, mon besoin était vraiment réel. Puis, du coup, il y avait toujours un décalage de 1 an entre ce que je pouvais faire.
Ah.
Et les aides humaines, donc, c'est complètement absurde. Et les formulaires, alors, moi, ça me foutait la rage de remplir des tableaux, mais interminables, avec des actes.